la crise Covid n'a fait qu'accélérer des tendances qui étaient déjà préexistantes. On avait déjà noté avant le Covid un début de phénomène d'exode urbain, notamment dans des générations assez jeunes, et qui quittaient, pour toute une série de raisons, les grandes métropoles pour aller s'installer dans des zones rurales où le prix du foncier est beaucoup plus abordable.
Et si le monde d'après, comme on l'a baptisé au début de la pandémie, avait un décor champêtre ? Depuis 2 ans, on parle beaucoup d'un exode urbain, pour l'opposer à l'exode rural, qui avait précipité des millions de Français vers les métropoles entre le début de l'industrialisation au 19e siècle et la fin des Trente Glorieuses. Il est naturellement trop tôt pour avoir une certitude, mais de nombreux signaux faibles montrent que les citadins qui en ont la possibilité tentent de plus en plus de s'affranchir de la pression urbaine.
J'ai vécu dans des tout petits appartements, 50 mètres carrés à 5. On avait 3 lits superposés, on était tous un peu entassés les uns aux autres, enfin sur les autres. Donc du coup, le fait de venir ici, c'est d'avoir de la place, de l'espace, la verdure, les forêts, tout ça, pour moi c'était essentiel.
Pas de raz-de-marée, nous disent les sociologues, mais des petits flux qui, additionnés, constituent un mouvement significatif. Mouvement par ailleurs encouragé puisque dans le plan France Relance, 8 milliards et 400 millions d'euros doivent permettre aux territoires, comme on dit maintenant, d'exercer toute leur force d'attraction.
Il y a toute la dynamique qui s'appelle Petite Ville du Futur. Donc il y a un mécanisme subventionné par l'État qui a permis, au fur et à mesure des années, de réfléchir à une ruralité moderne. Et c'est vrai, quand on arrive à l'Orme, c'est coloré, il y a des œuvres d'art dans la rue, il y a des galeries, il y a de l'animation, les gens sont accueillants. C'est un super bel équilibre, quoi.
À 3 heures de route, de Paris comme de Lyon, l'Orme, dans la Nièvre, ville de 1500 habitants du parc naturel régional du Morvan, fait un peu figure de laboratoire. Ça fait déjà quelques années que les initiatives s'y multiplient. Manuel Ruffez nous y emmène à la découverte des néo-ruraux. Exode urbain aux arbres citadins, c'est un reportage de Manuel Ruffez avec une prise de son signée Frédéric Quéroux.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Ah, l'Orme, voilà, on arrive. On est aux portes du Morvan, on est en Bourgogne-Franche-Comté, on est dans le département de la Nièvre. Et effectivement, on a bien mis 3 heures pour y arriver depuis Paris. Et c'est vraiment là-dessus qu'il joue 3 heures de Paris, 3 heures de Lyon, un mi-chemin entre les deux grandes villes.
Dans 300 mètres, tournez à droite sur route d'Envalon, puis tournez à gauche.
Il y a des grandes serres, là, je ne sais pas ce qu'ils cultivent, à l'entrée de la ville.
Tournez à droite sur route d'Envalon, puis tournez à gauche sur rue de Montigny.
Voilà, c'est la route de Château-Chinon, on est vraiment dans la Nièvre, là, pas de doute.
Vous avez atteint votre destination.
C'est ici, auberge du Relais. Ouais, c'est une ancienne auberge qui a été reprise. Et est-ce que je peux me garer là ? Hop !
Voilà, on est à l'Orme. Donc cette commune de 1500 habitants dans la Nièvre. Et notre premier rendez-vous, c'est là-bas, c'est l'auberge du Relais, on la voit d'ici. Cette auberge qui a notamment pour vocation d'accueillir justement les urbains qui ont dans l'idée peut-être un jour de venir s'installer par ici dans le coin.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au Relais.
Bonjour.
Marie-Joseph.
Enchanté.
Enchanté. C'est chaleureux, avec le poêle qui tourne.
C'est vrai que ce matin, je suis descendue, le fait que le poêle à bois soit allumé, et c'était super agréable, et ça m'a permis de déjeuner au chaud, c'était bien cool.
Ouais.
Ouais, c'était cool.
Et vous êtes Marie-Joseph, alors ?
Oui, c'est ça, je suis Marie-Joseph, et je suis arrivée d'hier soir, de Normandie, avec ma grande fille Agathe, qui est à l'étage. Okay. Et on vient visiter, et peut-être prospecter pour peut-être un changement de vie.
À ce point-là, c'est vrai. Ouais. Vous avez cette idée-là en tête.
Oui, parce que j'ai un projet de me racheter une maison depuis un petit bout de temps. En Normandie, notamment là, j'habite Deauville, Voilà, j'ai pas du tout ces moyens-là et j'ai pas forcément envie de cet achat-là non plus dans cet endroit-là. Et c'est ni plus ni moins un reportage sur la Nièvre il y a 3 semaines, c'est vraiment très récent, qui fait que je me suis dit, jusqu'alors je savais pas où aller prospecter, je me suis dit, bah, dans la vie, des fois, il y a des leviers qui font qu'on s'en va à tel endroit. Donc, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai regardé. Et du coup, ça s'est fait très, 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 très vite. Et j'ai déjà visité une maison hier. Et puis, bah, je compte en visiter d'autres. Après, je connais pas du tout la région. Donc, je viens vraiment en mode curieuse et enchantée. Super accueillie hier soir. En plus, avec des gens du village qui sont passés. On a pris l'apéro au bar. C'était trop cool, quoi.
Vous êtes prête à venir ici, dans la Nièvre, un département où vous êtes jamais venue avant?
Oui, parce que je suis dans une période de ma vie où j'ai l'impression que je regarde ma vie passer et le temps passe. Mais moi, en tant qu'individu Marie-Joseph, le matin, quand je me lève, j'ai plus cette dynamique qui fait que je me lève avec le... Il me manque cet endroit où j'ai envie de recréer un chez-moi, etc. Et pour y faire des chambres d'hôtes, certainement. Et donc, du coup, ça fait plusieurs mois où c'est du gros questionnement, de la grosse introspection, avec des gros moments de solitude en me disant, mais j'ai tel âge, je vais faire quoi? Là, je vais pas encore attendre 10 ans que la vie vive. Voilà. Donc, faut se mettre dans le mouvement si on veut que la vie, elle bouge. Faut aller à la rencontre de son destin. Ma fille est sur Lyon, mon fils est sur Paris, la Nièvre, on est pas mal situé. Il y a des fois, il y a des choses qui se font comme ça. Donc, et le prix attractif des maisons.
Ça attire.
Entre un 2 pièces à Deauville et une maison de maître ici. Mon choix, je pense, va être tout de suite vu. Ouais. Donc voilà, le début d'une aventure ou pas. Et en tout cas, si jamais j'habite pas là, bah, je fais connaissance d'Emeric, il y a un lieu de vacances qui peut m'attendre et puis une région que je vais découvrir. Donc c'est plutôt cool.
On va faire un café.
Ah bah, très volontiers, oui.
Café,
ouais, c'est possible.
Café.
Quand j'ai découvert la Nièvre, je me suis dit, bah, où aller dans la Nièvre? Parce que à droite, à gauche, sud, nord. Donc c'est les maisons qui pour le moment me portent. Donc hier sur la route, on est allé visiter une maison à
De Cise.
Non, ça c'est celle de samedi.
Donc
voilà, à Saint-Amand, j'ai été visiter une belle maison hier. C'était une très belle visite. Après, ça me paraît un petit peu isolé. La maison, elle est vraiment en pleine campagne. Il y a juste un voisin. Par contre, elle a un super potentiel. Il y a 2 maisons. Et il y a des dépendances autour. Et vraiment, la dame, c'est une dame qui travaille au puce à Paris. Donc elle a une déco juste comme j'aime. Et donc du coup... T'as carrément envie d'arriver et de dire, bah, tu me laisses ta déco et je m'installe avec la mienne et ça va le faire.
La maison, par curiosité, elle est à quel prix?
Elle est à 268 000 euros.
Il y a fait quelle surface
Il y a 2 maisons. Il y en a une de, en gros, 100 mètres carrés et une de 120 mètres carrés. Et il y a des dépendances qui sont très grandes, qui sont un petit peu en ruine, mais il y a une belle cour intérieure fermée. Vraiment, la maison... Où déjà, voilà, il y a une possibilité terrible. Et c'est une maison qui a été refaite à neuf, qui est isolée, électricité neuve, poêle à bois, enfin, il y a tout dedans, pour 268 000 euros.
Ça change les perspectives de vie, quoi.
C'est pas la même, c'est clair. Après, il y a toujours, comme depuis quelques semaines, quand je me lève le matin, mais qu'est-ce que je vais aller foutre dans la Nièvre? J'y connais personne, je m'éloigne quand même de ma famille, de mes amis, de mes activités sportives, sociales, etc. Mais à la fois, quand on regarde des fois des gens qui sont partis et qui ont osé, on se dit, waouh, ouais, la vache, ils ont vachement comme chance. Finalement, c'est pas de la chance. Ils ont juste, à un moment donné, osé une autre aventure. Et moi, je me dis que peut-être demain, je vais me dire, waouh, j'ai bien fait. Alors, forcément, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a du questionnement. Mais l'envie de me reconstruire pleinement et de m'épanouir pleinement prend le dessus du reste, je pense, ouais.
Des doutes, des questionnements, c'est pour y répondre qu'elle est venue à l'Orme Marie-Joseph. On la raccompagne dans la cour, elle part visiter la commune. Emeric, l'animateur du lieu, reste avec nous dans cet endroit très particulier. Il y a donc cette cour, avec à droite une grange à retaper qui doit devenir une grande salle pour réunir anciens et nouveaux habitants. L'habitation d'Emeric avec une terrasse qui accueille tout le monde. Un immense jardin à l'arrière. À gauche, la partie auberge proprement dite.
Emeric Seron.
Donc vous êtes le patron de ce lieu là, c'est ça?
L'un des patrons, voilà, parce qu'on est 4 associés, donc avec Loïs, Camille et Nadège. Et donc on a acheté ce lieu donc en janvier.
C'était une auberge, hein, on voit encore le panneau devant.
C'était une auberge, voilà, et donc l'idée c'est de maintenir la vie du lieu, reprendre la dynamique qu'il y avait avant, en partenariat avec les habitants locaux et avec des habitants qui viendraient d'autres villes pour brasser tout ce joyeux mélange.
Donc qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Vous accueillez les gens qui viennent découvrir un peu la région, c'est ça?
Ouais, exactement. L'idée, c'est de faire une ce qu'on appelle ici une passerelle rurbaine.
Rurbaine.
Voilà, donc c'est pas toujours facile de quitter l'urbanité pour aller en ruralité. Et donc l'idée ici, c'est de faire une passerelle qui aide à la transition douce. Donc l'idée, c'est pas de prendre ses valises du jour au lendemain. Donc du coup, c'est d'accueillir des personnes qui veulent découvrir la ruralité, la Nièvre, et de les aider dans cette transition.
En tous les cas, c'est charmant. On entend effectivement, bon, il y a la route à côté, mais on entend les oiseaux. Il y a de l'espace derrière, on voit une terrasse. Il y a deux bâtiments principaux, hein, si je vois bien, c'est ça?
Tout à fait. Il y a l'ancienne auberge avec les chambres à l'étage, le bar en bas, une salle de restauration. Et de l'autre côté, il y a une très grande grange qui sera réhabilitée pour faire la salle des fêtes du lieu. Et derrière, il y a 2000 mètres carrés de terrain qui donne sur un petit chemin qui mène à l'étang du Goulot où on peut aller se baigner en été.
Et si je comprends bien, cette idée de brasser un peu les populations, les gens qui habitent ici de manière un peu historique et familiale, et les gens qui sont venus récemment.
Ouais, donc l'idée, c'est vraiment d'éviter cette potentielle fracture entre urbains et ruraux, avec ce qui est parfois nommé les néo-ruraux, d'avoir cette diffraction entre ces types de populations pour faciliter la transition, mais surtout l'intégration des personnes avec les locaux.
Nous avons rendez-vous avec deux nouveaux arrivants dans la commune. Emeric, qui connaît bien les lieux, propose de nous conduire chez eux.
Donc, si vous voulez, on va rentrer par la porte principale.
Ils ont racheté l'ancienne maison et magasin d'un fleuriste, mais gardé la devanture du magasin, au jardin fleuri. L'habitation était certes en mauvais état, mais elle ne leur a coûté que 20 000 euros à l'achat. Ils sont artistes, comptent exposer et vivre à l'arrière et dans les étages.
Bonjour.
Alors Mario et Petrus,
l'accueil.
Bonjour.
Frédéric.
Alors on s'appelle Alessandro et Jean-Claude de Stella Goldschmidt. On a des amis, moi j'ai un ami qui s'est installé ici il y a 6 ans, un ami depuis 30 ans. Avec sa femme, ils nous ont contactés parce qu'ils ont une galerie. Et donc, ils nous ont proposé de faire une expo. Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas, l'expo et tout. Et finalement, il y a eu beaucoup de monde, on a beaucoup aimé. Après, il y a eu le confinement. Moi, j'avais repéré cette ancienne boutique de fleuristes. J'avais dit à Jean-Claude, t'imagines, si on achète ça, on peut faire atelier, galerie.
On a gardé le nom du fleuriste. Ce qui s'est passé, c'est que avec le Covid, on a eu tout d'un coup des envies, bien sûr, comme beaucoup de gens, de trouver un espace pour travailler. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé ici, c'est l'accueil de la population. Au bout de 3 jours, les gens nous invitaient chez eux, etc. Nous, Parisiens, c'était un petit peu presque choquant au début. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et là, on est enchantés. On a commencé déjà à faire les premières expositions. On va exposer, on va inviter aussi les gens à exposer. Nous, ce qui était intéressant, on ne cherchait pas une maison de campagne. On cherchait un lieu pour y travailler et pour y recevoir des personnes et rencontrer d'autres.
Ce qu'on n'a pas encore dit, mais vous êtes artistes tous les deux, c'est ça?
On fait 2 choses. On est artistes, mais on fait d'autres métiers aussi. Moi, je travaille dans le social, dans la grande précarité. Et Alessandro, lui, travaille dans la lithothérapie, dans les pierres. Donc, pour nous, ça a toujours été comme ça un peu. C'est-à-dire qu'un métier nourrit l'autre au sens propre, au sens figuré.
Mais qu'est-ce que vous cherchez ici?
De l'espace, des rencontres. Mais on les a. Enfin, la première chose qui nous a passionnés ici, c'est la population. C'est la voisine d'en face, qui s'appelle Cécile, qui, dès qu'on a une moindre souci, avant qu'on l'appelle, elle est déjà là avec des produits. Enfin, c'est assez extraordinaire. En plus, on est un couple de mecs. Donc, il faut être très clair que on serait peut-être pas accueillis partout de la même manière. Et ici, ça a été vraiment un vrai accueil, quoi. C'est même très émouvant, d'ailleurs.
Alors, depuis que vous êtes ici, comment ça se passe? Vous respirez?
En fait, on fait toujours l'aller-retour. Hein.
C'est ça, vous êtes
On n'est pas.
On essaie de venir le plus souvent possible. C'est très difficile de partir quand on est ici. Et puis, on a un petit jardin, puis le cercle d'amis qu'on a aussi qui s'est fait. Et puis, c'est aussi un espace pour le travail pour nous. Et ici, on a vraiment l'espace d'imaginer des grands formats. On travaille beaucoup aussi en tapisserie. À Paris, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on n'a pas fui Paris, hein. C'est un plus. Mais c'est vrai que à moyen ou court terme, moi je m'en vais très bien habiter ici en permanence, quoi.
Mais là, vous êtes en plein centre. Enfin, on peut pas être plus mieux placé si on veut être au cœur de la vie de la ville, quoi.
En plus, nous, venant de Paris, on n'avait pas envie non plus d'une maison en pleine campagne. On n'avait pas envie non plus d'être éloigné. Nous, on avait besoin de... Lui, il vient de Rome. Moi, je viens de ville en France. Et on avait besoin aussi de sentir le cœur battre, quoi. D'avoir des voisins. Puis ici, quand même, pour une petite ville, il y a quand même un supermarché, il y a des commerces. Bon, je ne vais pas dire que ça bouge. On n'est pas Saint-Tropez. Mais quand même, c'est vivant.
les chemins de l'exode urbain ne mènent pas à Saint-Trope, loin s'en faut. En vérité, on constate que les territoires les plus attractifs, outre les littoraux où se retrouvent les retraités, sont le plus souvent proches des autoroutes et des lignes de TGV. Les quelques enquêtes et sondages disponibles indiquent que 80% des citadins souhaitent quitter la ville et que 75% des Français aspirent à vivre dans une maison individuelle. Et comme la crise sanitaire a démontré que près d'un salarié sur deux est en mesure de télétravailler au moins partiellement, ces aspirations ont été confortées. C'est ce que détaille le politologue et géographe Jérôme Fourquet, co-auteur avec Jean-Laurent Casly du récent ouvrage « La France sous nos yeux ». Manuel Ruffez l'a rencontré au siège de l'IFOP, dont il est le directeur du département Opinion.
La crise Covid, sur ce plan comme sur beaucoup d'autres, n'a fait qu'accélérer des tendances qui étaient déjà préexistantes. On avait déjà noté avant le Covid un début de phénomène d'exode urbain, dont l'ampleur reste à quantifier. Ce n'est pas des millions de gens qui se sont mis sur la route, notamment dans des générations assez jeunes, et qui quittaient, pour toute une série de raisons, les grandes métropoles pour aller s'installer dans des zones rurales assez excentrées, soit pour des raisons éthiques ou idéologiques, rompre avec la société de consommation, expérimenter une espèce d'utopie post-68 revisitée à la sauce du 21e siècle. Pour d'autres, cette dimension existe, mais elle est moins forte. Et ce qui prédomine d'abord, c'est l'incapacité à vivre de manière relativement décente dans le cœur des métropoles où le prix de l'immobilier a énormément augmenté. De jeunes actifs, parfois avec de jeunes enfants, décident d'aller s'installer ou de tenter une nouvelle vie dans des zones rurales où le prix du foncier est beaucoup plus abordable. Donc vous voyez qu'on a du public qui sont soit très militants, écologistes, altermondialistes, et puis d'autres publics qui sont d'abord mus par des considérations socio-économiques.
Et ce que vous avez essayé d'étudier, c'est comment se passait la cohabitation en fait entre ces différentes populations.
Historiquement, la confrontation avait lieu avec les agriculteurs, mais les agriculteurs, ils sont de moins en moins nombreux en France. Et donc c'est plus justement avec ce public, et bien souvent de petite classe moyenne, d'ouvriers, d'employés, qui vit et travaille en zone rurale, qui est très dépendant de la voiture, qui touche des salaires assez faibles, qui s'est fait souvent construire. Vous savez, c'est la grande phrase qu'on entend beaucoup, c'est « j'ai fait construire, on a fait construire ». Donc du coup, on est endetté. On est dans, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, l'univers de la maison individuelle, le jardin, le barbecue, les réunions le week-end en famille. Donc c'est cet imaginaire-là, avec le garage attenant pour la ou les deux voitures, et qui est pas exactement celui que projettent les néo-ruraux quand ils arrivent. Et donc il peut y avoir une confrontation de points de vue, parfois assez marquée. C'est une espèce de cascade du mépris. Il y a le néo-rural, un peu intello, un peu décroissant, bobo, qui va regarder de manière un peu méprisante les beaufs qui habitent là. Et puis les natifs qui, eux, à leur tour, vont regarder de manière un peu méprisante les cassos, comme on dit, ces espèces de cassociaux qui sont venus s'installer dans la vieille maison qui n'est pas retapée, où le chauffage laisse à désirer, etc., etc. Donc il y a cette espèce de mosaïque, cet archipel, au sein même de toute une série de territoires ruraux.
On a pu voir aussi des urbains très utopistes qui arrivent à la campagne et qui s'aperçoivent que leurs voisins sont très conservateurs, au contraire, voire même peuvent apporter leur bulletin à l'extrême droite.
Alors, il y a bien sûr ces tensions qui peuvent exister. La question du rapport à la chasse, par exemple, est intéressante de ce point de vue-là. Mais il y a, je pense aussi encore plus profondément, la question du rapport à la consommation. On fuit la ville pour aller à la campagne et pour réinventer un mode de vie plus sobre. Et on peut constater, parfois de manière un peu dépitée, que son voisin, qui a toujours habité à la campagne, lui trouve très bien d'avoir deux écrans plats dans la maison et va faire construire une extension pour installer le spa ou le jacuzzi, ce qui est complètement hérétique aux yeux de ces néo-ruraux. Donc il y a des visions du monde, encore une fois, des rapports à la modernité, à la consommation, qui sont très différents dans ces territoires. Et la ruralité qui avait été marquée historiquement par la très forte empreinte du monde agricole. Aujourd'hui, il n'y a plus que 380 000 agriculteurs en France. Et donc aujourd'hui, les identités rurales, elles ne découlent plus prioritairement de l'agriculture. Elles découlent d'autres paramètres, dont ceux qu'on vient d'évoquer.
La confrontation entre les anciens et les nouveaux habitants semble pourtant faciliter quand le tissu associatif ou les élus locaux prennent le problème à bras-le-corps. Retour avec Manuel Ruffez à Lormes, où même installé depuis avant la pandémie, les nouveaux démontrent que la greffe peut prendre.
Interception sur France Inter.
Alors là, on va voir un autre profil. On va aller voir une ancienne parisienne, mais qui, elle, est installée depuis plusieurs années. Et on va voir si elle se plaît ici, en fait. Elle a toujours vécu à Paris, ou en très proche banlieue de Paris. Elle est venue s'installer, je crois, il y a 3 ans. Et on va rencontrer Céloïse. Elle doit habiter là, au bout de cette rue. Et on est dans la bonne rue, là. C'est au 12. C'est juste là, tiens. Dans la sonnerie, ouais.
Bonjour.
Frédéric, Manuel, France Inter.
Enchanté. Enchanté. Louise. Bonjour.
C'est chez vous.
Voilà. Bah, bon, on est en location ici depuis bientôt 3 ans. Ouais.
Comment ?
115 mètres carrés à peu près pour. Ouais, non, c'est chouette, ça change.
Il y a des enfants ?
Oui, 2.
Qui sont scolarisés ici ?
Oui.
Je peux vous demander, sans être indiscret, votre âge ?
38 ans.
D'accord. Et vos enfants, ils ont quel âge ?
6 et 8.
Et on peut vous demander votre loyer ici pour cette magnifique maison ?
Moins de 600 euros. D'accord. Donc pour 115 mètres carrés avec une remise, un garage, un jardin, trois chambres. On est bien.
Bon, vous allez nous raconter ça. On peut s'installer
Bien sûr, soit autour de la table, soit... Ouais.
On vous dérange pas, ça va ?
Non, je suis entre deux emplois. Donc là, pour l'instant... Là, j'ai le temps. Je suis en vacances cette semaine.
D'accord. Ok.
Ouais.
Entre deux emplois.
Oui, moi, je suis arrivée en 2018.
Bien avant, donc, toutes ces périodes de confinement, Vous avez déjà eu cette envie de partir, quoi.
Alors, je suis née en région Paris. Je suis née à Neuilly-sur-Seine. Et après, en fait, on a vécu 25 ans à Paris, dans le 16e. Et mes parents, en fait, avaient une résidence secondaire ici.
À Lorme.
À Lorme, depuis 89. Et mon père est venu à la retraite il y a 20 ans ici. Et là, il a 83 ans, donc j'ai voulu me rapprocher vu qu'il vit seul.
D'accord.
Au début, on a vécu un an avec mon père. Et après, le temps de se mettre en place, de trouver un travail. J'ai trouvé cette maison en location dans la même rue. Comme ça, on peut y aller directement à pied. On est juste à côté s'il y a besoin.
Ouais, vous regrettez pas. Il n'y a pas un moment où vous dites quand même la ville, c'était bien, quand même l'accès à la culture, l'accès... Non.
Il manque 2-3 petites choses quand même. Tout est à peu près à une demi-heure sinon. Et quand la plus grande ville, c'est peut-être Avallon à 30 minutes. Il y a Clamcy aussi. Donc, voilà.
Parce que vous êtes une vraie urbaine. Alors, entre Neuilly et le 16e, vous avez toujours connu que ça, quoi.
Ouais. Après, j'ai vécu dans des tout petits appartements, 50 mètres carrés à 5. On avait 3 lits superposés. On était tous un peu entassés les uns aux autres. Enfin, sur les autres. Donc, du coup. Bah, le fait de venir ici, c'est d'avoir de la place. Pour moi, c'était essentiel. J'avais vraiment besoin d'espace. Là, ici, si on est un petit peu sportif, c'est un vrai terrain de jeu, quoi. Entre les lacs, les bois et tout. Donc, je me suis mise à la course. À 35 ans, à 35 ans, je me suis mise à courir.
Ouais. C'est bien. Bon, allons-nous asseoir, ouais. On sera peut-être...
Tu es en train de manger ou...
Non, ça va. Ouais, là, c'est... Ouais, un normal.
Et vous prenez du sucre ou du lait ?
Non, merci.
Okay. Bonjour.
Manuel.
Bonjour, on laisse.
Bah. Il part à la trompette.
D'accord.
Bon interview.
Enchanté.
À plus tard.
À plus tard. Là, c'est votre mari qu'on vient de voir ?
Mon compagnon, oui.
Mon compagnon.
Ouais, ouais.
Il a franchi le pas aussi, il est venu, c'était pas en même temps que vous, hein, c'est ça si j'ai bien compris.
Ça a été très compliqué parce qu'en fait, pour lui, toute sa vie était en région parisienne. Il avait son travail là-haut et il travaillait à bord de l'Eurostar, donc il faisait les trajets Paris-Londres. Donc c'est vrai que d'ici, c'était impossible. Et puis après, il a compris avec tout le virus, donc le confinement et tout. Malheureusement, c'est une période un peu particulière, mais j'étais très très bien ici, je l'ai vraiment pas mal vécu le confinement parce qu'on avait que le jardin, les enfants, donc il faisait très beau cette année-là, donc on en a vraiment profité. Et lui, il était enfermé dans un 50 mètres carrés en région parisienne, au 3e étage, sans balcon, enfin sans extérieur, donc ça a été très très dur pour lui. Donc son choix, à mon avis, s'est fait à peu près à ce moment-là, où il a vraiment décidé de franchir le cap et de venir là.
Et du coup, il a changé de métier ou il continue
Donc du coup, il a fait une rupture conventionnelle et là, il fait une formation à distance, il fait un DUST de programmation, enfin de informatique, donc il est en première année et bon, il va continuer comme ça pour l'instant, il fait tout ça ici. Puis c'est vrai que on a des activités. Donc là, il est à cours de trompette. Les enfants font du piano, ils font du tennis. On s'ennuie pas quand même ici. Il se passe pas mal de choses.
Mais il faut trouver du travail. Comment vous avez fait ?
Bah, oui, travail. Donc, bon, au bout d'un moment, j'ai commencé, j'ai trié du bois, j'étais aide à domicile, je travaillais en tant que secrétaire de mairie, je travaillais au magasin bien à côté, j'ai travaillé à la mairie de Lormes également, en tant que secrétaire, et puis je suis passée au centre de vaccination. Après, donc, je suis devenue responsable de secteur à l'association d'aide à domicile à Corbigny, juste à côté. Et après, encore, là, j'ai un nouveau poste, je deviens secrétaire à partir de la semaine prochaine. Donc, oui, ça bouge beaucoup, mais il y a du travail si on cherche et qu'on s'en donne les moyens.
Et vous avez coupé les ponts avec Paris, vous l'avez vendu, l'appartement ou...
Là, il a gardé l'appartement, il l'a mis en location. Donc, bon, voilà, ça, c'est, voilà, comme ça, au moins, on rentre dans nos frais. On cherche, là, dès que j'ai un CDI, je cherche à acheter dans la région. J'attends le CDI avec impatience.
Vous referez pas le chemin dans l'autre sens?
Non. Et jamais, enfin, la région parisienne, c'est trop une vie de fou. Moi, je suis bien, on est bien ici. À la poste, vous êtes sur la gauche, vous allez suivre la rue, vous allez tomber sur la mairie en fait.
D'accord.
Et il y a Carlos, et après il faut remonter à la grande rue.
Ouais.
Et là, un peu plus loin, sur la gauche, il y aura l'agence immobilière.
D'accord. Bon, on va trouver ça. Merci beaucoup, pour votre accueil.
Merci. Bonne continuation.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Ce qui est intéressant sans doute, c'est de mesurer un peu les conséquences qu'a eu cet afflux d'urbains ici, dans cette commune de Lormes, et notamment les conséquences sur les loyers et le prix des maisons. On nous a dit qu'il y avait une agence immobilière dans la rue principale. On va aller voir s'ils sont disponibles pour répondre à nos questions.
Je vous en prie. Donc Françoise Bourgeois, donc je suis la gérante de la société et directrice de l'agence.
Là, on est devant votre agence immobilière.
Oui.
Et on voit toutes les affiches, toutes les photos, c'est vendu, 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 c'est ça,
ben
ça
oui, présente. On essaie de remplir la vitrine en fait avec ce qu'on a, parce qu'on n'a quasiment plus rien.
Il y a quasiment plus rien.
Ouais, avant les vendus, c'est vrai que ça prenait une toute petite place dans la vitrine, on en mettait le minimum parce qu'on n'arrivait pas à mettre nos affiches à vendre, et là c'est l'inverse. Pratiquement, si vous voulez, on a travaillé de la même façon, on a fait quasiment autant de ventes, pas forcément beaucoup plus, mais c'est qu'il n'y a aucune maison qui est rentrée sur le marché. Il y a eu vraiment une razzia sur toutes les maisons du Morvan et voilà, il n'y a aucun produit qui rentre. Là où les gens les vendaient avant, dans les successions, les gens se débarrassaient des maisons, ne voulaient pas les garder, aujourd'hui ils les gardent. Je suppose que les gens ont compris en fait qu'ils avaient, quand ils héritaient de la maison de la grand-mère, bah, c'était une pépite et que donc plutôt que de la vendre et de s'en débarrasser, fallait la garder.
Donc cette période de confinement a changé vraiment les façons de... le marché immobilier en tout cas ici.
Quoi. Oui. Avant on avait les gens qui connaissaient le Morvan et qui venaient dans le Morvan mais en terrain connu. Là on a eu des gens qui ne connaissaient pas le Morvan qui ont atterri ici parce que je pense qu'ils ont regardé sur la carte et se sont dit là il y a un parc naturel et on va aller voir ce qui s'y passe et on a eu vraiment des nouveaux acquéreurs.
Et c'est quoi le profil alors ?
Alors ça reste quand même un profil de gens qui aiment la nature, des marcheurs, des randonneurs, ouais, des gens qui aiment le sport d'eau vive, voilà, des Parisiens qui aiment quand même la nature. Hein. Mais ce sont des Parisiens et ça a toujours été des Parisiens.
Mais du coup, vous les avez sentis arriver en masse après le confinement, quoi. Ils se sont un peu... ils avaient besoin de ça.
Ah oui, oui. J'ai senti vraiment des gens malheureux. Vraiment, ils avaient vraiment besoin de s'échapper. Et donc, on en était à faire des visites sur WhatsApp, des visites... c'était terrible, quoi. Et puis, dès qu'ils ont pu s'échapper, ils sont venus visiter en direct.
Et le marché, du coup, les prix ont augmenté s'il y a une raréfaction, on imagine?
Alors, les prix ont augmenté, mais pas de façon, on va dire, démesurée. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de négociation sur les biens. Voilà, un bien, il est à un prix donné, voire même mis à un petit peu plus cher qu'il n'aurait été mis il y a 2 ans... Et il ne se négocie plus. Parce qu'on a souvent 2-3 acquéreurs au même prix sur le même bien. Et c'est même pas la peine d'essayer de négocier. Le vendeur, il négocie plus.
Et c'est une petite augmentation. Elle est, vous l'estimez à combien
J'évalue l'augmentation grosso modo à peu près à 300 euros du mètre carré. C'est-à-dire qu'on vendait entre 600 et 700 un bien à peu près correct il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on est en moyenne à 1000 euros, voire beaucoup plus si le bien est vraiment exceptionnel, avec une vue exceptionnelle, avec une vue sur un lac. Voilà. Après, il y a des biens qui se vendent beaucoup plus, mais la moyenne serait autour de 1000 euros le mètre carré.
Mais c'est quand même à des prix qu'on ne trouve plus ailleurs.
Oui, oui, c'est des prix qu'on ne trouve plus ailleurs. C'est des prix que vous trouvez peut-être dans la Creuse et encore, je ne suis même pas sûre.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle, selon vous
ou... Oui, c'est une bonne nouvelle, hein, si on transforme l'essai. Après, c'est quelque chose, on pourra vous... Revenez nous voir dans 5 ans, et on vous dira ce qu'il en est. Voilà, s'il y a des maisons qui se remettent en vente ou pas, si les gens repartent ou pas. Parce que bon, on est quand même dans des régions où le travail n'est pas non plus facile à trouver. Donc il y a des gens qui ont bâti effectivement une sorte de rêve. Et parfois, oui, ils se rendent compte au bout de 4-5 ans qu'ils ne peuvent pas faire leur vie ici parce que c'est compliqué.
Qu'est-ce qui les fait fuir en général ?
Oui, alors principalement, c'est le travail en fait. C'est le fait qu'ils n'arrivent pas à s'implanter, ils n'arrivent pas à progresser dans leur travail, c'est trop compliqué, les transports sont loin, il faut faire beaucoup de kilomètres pour beaucoup de choses. Voilà, c'est souvent ce qui peut faire repartir les gens. Ce qui peut les faire repartir aussi, c'est le fait qu'on ait des écoles, enfin tout ce qui est lycée, tout ce qui est université, quand les enfants grandissent, tout se passe en grande ville. Certains ne sont pas prêts à voir leurs enfants partir en internat. Donc, se rapproche des grandes villes à ce moment-là.
Bonjour, mesdames.
Bonjour, messieurs. Alors, attendez, je téléphone à ma collègue.
Allez-y.
Oui, c'est moi. Est-ce que tu as des bougeurs au poireau à part des blouses de commande ? Non, c'est bon, donc je t'ai piqué tes pattes dernières. Ok. Alors,
c'est la spécialité, la gougère.
Oui, la gougère, la griotte.
La griotte, c'est quoi?
C'est une pâte à brioche salée avec des gratons de porc à l'intérieur.
Waouh. Ah ouais.
Bonjour. Monsieur Macadré.
Et vous voulez savoir un peu ce que les commerçants qui sont installés depuis un moment en pensent de cet afflux de population?
C'est mieux pour nous, on ne va pas s'en plaindre. Hein. De toute façon, plus on a de personnes, mieux c'est pour nous. Hein. Surtout dans nos campagnes, l'hiver c'est dur déjà. C'est très très difficile à vivre, alors donc plus il y a de monde, mieux c'est. On a beaucoup de personnes de région parisienne, tout ça, qui viennent. Bon, on les voyait déjà tous les week-ends quasiment. On a une clientèle assez fidèle, donc voilà quoi.
Et ils viennent maintenant, ils sont installés, vous les voyez, qui vivent ici alors du coup.
Il y en a, ouais, il y en a.
Et ça change pas les mentalités, ça change pas la façon de penser dans la ville
Non, je pense que tout le monde s'intègre et puis nous, on ne change pas notre façon de vivre hein, de toute façon pour ça. Voilà.
Ouais, c'est ça, la cohabitation se passe bien.
Voilà, c'est ça.
Ça n'a pas changé vos modes de fonctionnement, vos modes de vie
Non, du tout. Ouais.
Okay. Merci beaucoup.
Bah, de rien.
Bon courage, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des spécialités ici.
Oui, on fait beaucoup de spécialités. Puis on fabrique toute notre charcuterie, donc toute notre pâtisserie, on fabrique tout. Bah, on fait au mieux, quoi. On fait au mieux, tout avec le cochon.
Merci beaucoup.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
En sortant de la charcuterie, on arrive sur la place de l'hôtel de ville. On est jeudi matin, il est 10h30. C'est le jour du marché hebdomadaire. C'est un petit marché aujourd'hui. Le plus grand a lieu traditionnellement le premier jeudi du mois. Mais il y a quand même 3 stands sur la place, 3 dans la halle couverte et une dizaine de clients qui font leurs courses.
Alors moi je suis Selim, marchand de fruits et légumes à Corbigny depuis 15 ans.
Donc il y a cette nouvelle population, nous on travaille là-dessus, ce qu'on appelle les néo-ruraux. Vous les avez vus arriver effectivement ?
On les a vus arriver après le premier confinement, oui. Après oui, ça s'est vu sur la clientèle quand même. Le nombre de clients est devenu vraiment régulier depuis qu'ils sont là.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous.
Bonne nouvelle, oui. Au niveau du commerce, oui, c'est très bien.
Et donc on sent peut-être qu'il y a un pouvoir d'achat différent. Oui,
complètement différent. Le panier moyen a augmenté.
Ah oui, à ce point-là, ouais.
Oui.
Ce qui est bon pour vous.
Oui, c'est bon pour le commerce. Oui, franchement, oui.
Et ils n'ont pas d'exigences qu'il n'y avait pas avant. Est-ce qu'ils demandent que du bio, qu'ils demandent que du...
Après, moi, ça fait quand même 8 ans que je vois que du bio. Donc c'est pour moi, c'était que du bonheur. Donc,
vous, c'est déjà passé.
Moi, j'ai déjà passé avant qu'ils arrivent. Oui, moi, ça fait déjà 8 ans que je vends du bio, donc oui. Et là, je suis en train de monter même une boutique sur Woutenay-sur-Cure en vrac, mais j'arrêterai pas les marchés. Je continue quand même à faire les marchés malgré ça.
Merci beaucoup.
Merci, vous êtes, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi.
Au revoir.
Merci, bonne journée.
Au revoir. On est toujours à l'Orme, on est presque sorti de la commune, on est à l'extérieur, un tout petit peu à l'extérieur de la commune de l'Orme, en direction d'Avallon. Et on a rendez-vous là, voilà, dans ce bâtiment, qui est un immense bâtiment, Télécentre du Morvan, c'est marqué dessus. C'est un espace de coworking, c'est un endroit où tout est fait pour que les gens puissent travailler d'ici, de cette commune de l'Orme. Je ne sais pas où c'est. Là, naturellement, mais je sais pas si c'est par ici où il aurait fallu rentrer en première.
Bonjour.
C'est vous France Inter ou je...
Bonjour. C'est bienvenue. Regardez comme on est bien.
On est bien là.
Il fait soleil, il y a des écureuils dans les arbres et on travaille à très haut débit.
C'est vrai que c'est incroyable parce qu'on est au milieu des bois.
Oui, ça fait 20 ans que je suis là.
Ça fait 20 ans que vous...
Ouais. Alors au début, évidemment, il y avait beaucoup plus de neige. Hein. Moi, j'habite à Corbigny à côté. Donc quand on montait, c'était toujours un peu délicat. Des fois, au milieu de la... Je me retrouvais dans un endroit comme ça, où il y avait des gens qui phosphoraient, qui travaillaient avec du très haut débit. Bon, à l'époque, un peu moins.
Hein. Ouais, un peu moins.
On était quand même avec une parabole sur le toit. Bon, c'est moins facile. Et j'étais au milieu de tout, là. Et tout s'arrêtait. C'est un calme olympien. Et là, on faisait de la technologie numérique. C'était génial.
C'est ça, on a à la fois les petits oiseaux, les bois qui sont juste là, à quelques mètres.
Oui, ouais, absolument, on voit les chevreuils, là.
Il y a les chevreuils,
les chevreuils
qui sont jusqu'ici.
Les télétravailleurs qui sont là, qui les observent. Moi, je m'appelle Patrick Marmion, je suis directeur de la mission numérique du pays Nivernais-Morvan. On a notre terrain de jeu, c'est 196 communes les plus rurales de la Nièvre.
C'est quoi ces bâtiments, là?
Ouh là, alors ça, c'est très ancien.
Il y a plusieurs, il y a trois bâtiments, là, de...
Ah, il y en a bien au moins quatre, même.
Ouais, derrière,
il y en a... Ce sont les anciens abattoirs municipaux de la ville, qui ont été réhabilités il y a fort longtemps, il y a 20 ans, parce qu'à l'époque, la commune et la communauté de communes s'étaient dit, bah tiens, c'est quand même dommage d'avoir des bâtiments vides, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Ils ont commencé à accueillir des entreprises qui n'avaient pas leurs propres locaux. Et du coup, on a commencé, enfin, ils ont commencé, hein, les élus, hein, c'est vraiment une volonté d'élus, à réhabiliter ce bâtiment central, qui est là où on accueille le public, où les gens viennent se servir d'ordinateur, se former...
La mission numérique, c'est ça?
C'est ça, ouais. Alors après, tout ça s'est décliné, il nous a fallu plus d'espace. La communauté de communes a dit, oui, mais on a encore des bâtiments, tout ça a été vide. Hein. Je me rappelle, il y avait encore les brûleurs à cochons.
Ouais.
Grosso modo, on s'organise... Alors si on parle de télétravail, c'est-à-dire la partie du tiers-lieu qui s'occupe d'accueillir des gens à la fois toute l'année, c'est-à-dire 35 heures par semaine, ils sont là. On les rencontre au café, on discute, on s'occupe des colis qui arrivent, voilà, ou d'autres choses, des problèmes informatiques, parce qu'il y en a. Ça marche pas tout seul, hein. Et puis, il y a des gens qui viennent travailler plusieurs semaines d'affilée, puis qui repartent. C'est un autre mode. Et puis, finalement, il y a des gens qui viennent travailler à la demi-journée aussi, ou à la journée, et qu'on voit passer. Et voilà, donc il faut de la souplesse à tout ça. Hein. Il faut qu'on puisse les accueillir au chaud, dans les meilleures conditions, et qu'ils soient contents d'être venus là. Donc, on a des petits bureaux. Il y en a sur le site, il y en a 12. Hein. 12 bureaux qui sont quasiment remplis, hein, en ce moment.
Donc ce sont ces bureaux qui portent, oui, les noms des étangs du Morvan.
Il y a les noms des étangs du Morvan et les gens viennent avec leurs clés, font ce qu'ils veulent. Hein. Ils travaillent quand ils veulent, la nuit, le jour.
Et ils ont à leur disposition du haut débit,
oui, de quoi? Ils ont à disposition du très haut débit puisqu'on est branché sur la fibre optique. Et
ils payent.
Et ils payent. Alors je crois qu'une semaine ici, ça doit se négocier 70 euros, quelque chose comme ça. Et un mois, c'est dans les 200 euros.
D'accord.
C'est pas très cher. Hein.
C'est pas très cher. Et vous avez vu du monde affluer depuis
oui,
la fin de la...
Oui,
du,
alors pas
des confinements.
D'abord, les choses ont changé. Parce que ce centre de télétravail, il a été ouvert il y a bien longtemps. Bien avant la crise sanitaire qu'on a connue. Et nous avions tablé en réfléchissant sur des gens qui voulaient rejoindre soit leur famille à la campagne, soit s'éloigner un peu de Paris et rester travailler à 35 heures par semaine ici. Ce sont des vrais télétravailleurs à 100% de leur temps. Pendant le Covid, évidemment, on a assoupli encore tout ça pour que tout le monde puisse venir travailler quasi au pied levé. On mettait les clés sous les pierres et c'était un système débrouille. Hein. Et puis on s'est aperçu que tout ça s'organisait d'une autre façon. C'est-à-dire que les gens se sont mis à venir sur des périodes qui leur permettaient d'allonger leur temps de présence à la campagne. Par exemple, on a des entreprises qui viennent maintenant, qui louent l'été, qui ont par exemple 3 semaines de vacances, mais qui louent 2 mois. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester 2 mois ici en travaillant et en prenant leurs vacances de 3 semaines. Ça allonge le moment où ils ne sont plus dans les cités et les grandes villes. Et c'est ça qui se passe.
Vous l'avez senti, ça?
Ah oui, on l'a
tout à fait senti. Ce besoin de travailler, de poursuivre l'activité, oui, mais dans un autre espace, dans un autre endroit.
Dans un autre espace, endroit. Avec une autre chronologie. On n'est pas forcément dans la même chronologie. Ici, à la nature, on va aux champignons, on va à la pêche. Le soir, on fait d'autres choses, quoi. On n'est pas forcément dans les transports en commun. Et puis ce qui se profile aussi, ce sont quand même les gens qui viennent finir leur carrière ici. C'est-à-dire que, voilà, ben, il me reste 2 ans, ben, je ne vais pas les faire en banlieue ou à Paris, je vais venir les faire ici. Alors, soit ce sont des gens qui sont indépendants, soit c'est une négociation patronale. On arrive à avoir des gens comme ça qui me disent, ben, je serai là jusqu'à ma retraite. Voilà, et on va peut-être aller voir ce monsieur là qui,
on va voir ce monsieur qui est dans ce bureau, alors, oui. Cressant.
C'est le bureau Cressant, c'est le lac du Cressant, qui est à quelques kilomètres d'ici, un lac artificiel, qui est dans le Morvan. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous déranger 2 minutes?
Oui.
Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, peut-être votre prénom et votre nom?
Jean-Maurice.
Oui.
Et vous venez travailler ici? C'est vraiment un lieu de travail ici.
Parce que j'habitais Paris, je suis retraité, mais retraité actif. Localement, dans un peu des petits villages et des hameaux, il n'y a pas de connexion correcte d'Internet.
Donc, vous avez essayé d'installer chez vous, c'est ça? Vous avez essayé de travailler depuis votre résidence?
Oui, chez moi, oui. C'est impossible. Ça coupe à certains moments. On n'a pas de débit, etc. Et comme j'ai une activité qui m'oblige à discuter essentiellement par Internet avec des amis qui sont sur la côte ouest américaine et à Singapour, c'est impossible. J'ai des fichiers à transmettre. Donc je suis bien ici où j'ai une liaison qui est tout à fait honorable, même très honorable.
Vous vous demandez ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre profession?
Je suis retraité, j'étais chef d'entreprise, j'ai arrêté mes entreprises pour prendre ma retraite, et je participe à un projet de produit de géolocalisation, essentiellement pour les forces de l'ordre et pour les pompiers.
Et ici, vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait, tout ce dont vous aviez besoin?
J'ai absolument tout ce qu'il me faut. Moi, ce qu'il me faut essentiellement, c'est du débit. Même le téléphone pose quelques problèmes localement.
Donc d'ici, vous transférez tous vos gros fichiers, vous êtes en communication, vous faites des réunions
Teams, voilà. Bon, parce qu'un de nos clients principaux, enfin, en devenir, est Microsoft.
Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. On va vous laisser travailler. Là. On va vous laisser vous replonger.
C'est un rythme beaucoup plus tranquille. Il n'y a pas de stress.
Faute de données officielles sur les mouvements de population, le recensement de l'INSEE ayant pris du retard, le PUCA, une agence gouvernementale, et Réseau Rural Français, un groupe de réflexion, ont demandé à plusieurs chercheurs de travailler sur le sujet. L'économiste Olivier Bouba-Olga en fait partie. Spécialiste de l'aménagement du territoire, c'est à Paris, entre deux trains, que Manuel Ruffez l'a rencontré. Il atteste de la réalité du phénomène.
Oui, en fait, moi, ce que j'observe, c'est que c'est assez intéressant, finalement. Il y a quelques années, le discours dominant, c'était au contraire un discours très pro-métropolitain. Les métropoles seraient l'avenir indépassable de la croissance, de la création de richesses en France. Ce discours en a pris un coup dans l'aile avec la crise des Gilets jaunes, et puis ensuite avec la crise Covid. Et là, on a eu un grand basculement, d'une certaine manière. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas si c'est anecdotique ou massif. Et pour pouvoir se prononcer, il faut des chiffres. Et les chiffres sur les déménagements, on les aura avec retard. On les aura peut-être dans 2-3 ans, en fait. Donc, moi, l'idée que j'ai eue, ça a été d'exploiter des données sur les inscriptions scolaires. Et ça, on a de la donnée plus fraîche. Moi, j'ai pu avoir en décembre, là, début décembre, des chiffres sur les inscriptions scolaires, septembre 2021. Si on a des territoires où les inscriptions scolaires évoluent très fortement, on peut se dire que sans doute, en partie, c'est lié à des mobilités, à des déménagements.
Oui, ça veut dire quand même que vous excluez une partie de la population qui n'a pas d'enfants, donc.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que voilà, on ne peut capturer au mieux que ce qui se passe pour des couples avec enfants scolarisés. Donc ça permet quand même de dire des choses. On ne capture pas tout, mais ça permet de dire des choses. Et puis il y a d'autres chercheurs qui ont eu d'autres idées. Là, j'ai échangé avec des collègues de Dijon qui ont travaillé sur les réexpéditions définitives de courrier de la poste. Donc là, ça permet de capturer beaucoup plus de monde. Et puis d'autres encore ont travaillé sur des données sur les transactions immobilières. Donc on a commencé à croiser et confronter nos résultats. Mais on s'aperçoit qu'on a des résultats qui convergent. En gros, donc c'est plutôt rassurant, on va se dire, ça solidifie nos principaux résultats quoi, sur ce phénomène.
Ça a convergé, alors ça converge vers quoi?
Alors ça converge vers l'idée qu'on n'a pas d'exode massif, on n'a pas des... Voilà, ça c'est clair. Que ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe rien. On a quand même un nombre non négligeable, on a une petite rupture de tendance, on va dire, avec effectivement des gens qui, localisés dans les grandes villes, une tendance à aller vers d'autres territoires. Alors, deux types d'espaces, on va dire. Certains territoires proches de ces métropoles, donc on va dire c'est une espèce d'approfondissement du processus de périurbanisation. Et d'autre part, aussi des mobilités vers des territoires plus lointains. Plus loin, c'est pas que de la périurbanisation, urbanisation. Donc là, on retrouve effectivement des gens qui vont s'installer plutôt ville moyenne ou territoires ruraux. Moi, ce que j'ai dans les inscriptions scolaires, c'est que c'est plutôt des territoires partie sud de la France quand même, enfin grand sud de la France. Hein. Et puis aussi un petit effet lié à la présence de résidences secondaires, c'est-à-dire des territoires où la part des résidences secondaires est plus importante, ont pour certains une dynamique plus favorable. Donc là, ce serait lié soit au fait que bah, peut-être on a des gens qui avaient une résidence secondaire qui la transforment en résidence principale, soit bon, bah, c'est un indicateur d'une forme d'attractivité, on peut dire, de ces territoires, le fait qu'on ait déjà beaucoup de résidences secondaires, donc des gens vont s'y installer.
Si le phénomène existe, il faut bien en tenir compte et offrir des services à ces personnes qui viennent là, quoi.
Oui, de toute façon, je pense que surtout les... En tout cas, moi, c'est vraiment peut-être un des discours forts que j'essaie de marteler auprès de l'ensemble des acteurs des territoires, pour dire que les enjeux, ils sont vraiment de revenir à des questions d'aménagement des territoires, d'accès aux services, d'accès à la santé, d'accès à la formation, à la culture, etc. C'est ça qu'il faut travailler sur les territoires. Donc c'est vraiment, à mon avis, le mot d'ordre en termes d'action publique. Hein. C'est occupons-nous des gens, développons des analyses pour mieux comprendre leurs besoins, est-ce qu'on arrive à les satisfaire ou pas, et puis essayons de mieux les satisfaire quand ce n'est pas optimal encore.
Exode urbain aux arbres citadins, c'était un reportage de Manuel Ruffez. Prise de son, Frédéric Kérou. Réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier. Mixage Valérie Lavalard. Un reportage déjà disponible sur franceinter.fr.